L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Alors Maud, aujourd'hui, un thème qui t'est cher.
Voilà, nous allons aller puiser dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire toute la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur l'amour conjugal? Et comment est-ce que Dieu nous fait faire tout un parcours d'éducation? Nous, quand je dis nous, c'est l'humanité depuis plus de 4000 ans.
Voilà, et on va essayer de mieux saisir combien vraiment cette relation conjugale que nous sommes appelés à vivre, finalement, son modèle, c'est le modèle, c'est toute l'histoire du peuple de l'humanité, du peuple hébreu, avec son Dieu. Et qu'en fait, il y a un parallèle constant, on l'a déjà évoqué la semaine dernière avec le mystère de l'Eucharistie. Il y a une profonde intimité de nature entre l'expérience de la vie conjugale et l'expérience de la vie spirituelle, de la relation de l'homme avec son Dieu et du peuple avec son Dieu.
Voilà, donc on a cherché dans l'Évangile, comme d'habitude, comment est-ce que Jésus faisait référence à cette ancienne alliance, à toute cette histoire du peuple élu?
Voilà, alors on a deux textes, mais on pourrait en prendre d'autres aussi. Hein. Deux petits textes, un dans Matthieu 19 et l'autre dans Matthieu 17. Voilà qu'on va vous lire. N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il a dit « Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Et donc, un mot dans cela, Jésus fait référence à l'importance au premier texte de la Genèse. Et puis, un autre texte également, autre événement, celui de la Transfiguration. Où on voit bien que les personnages de l'Ancien Testament, les grands prophètes, sont présents et aux côtés de Jésus dans son ministère. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Oh, moi, j'aurais tellement aimé être là, de voir Jésus discuter avec Moïse et Élie. Mais quel extraordinaire événement que cette rencontre de Jésus, fils de Dieu.
Au royaume, on pourra discuter avec
royaume,
Moïse et Élie.
Au royaume, voilà. Et comme cette présence, cette constante, comme quoi vraiment, il y a une profonde articulation entre l'expérience de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance.
Voilà, Jésus fait référence aux patriarches souvent, et parce que justement, pour un juif, toute la révélation de la Bible se lie à plusieurs niveaux. Bien sûr, c'est l'histoire d'un peuple, c'est l'histoire d'une alliance, mais c'est surtout qu'à travers cette histoire, on a tout un enseignement sur la pédagogie de Dieu et sur notre vie spirituelle.
Donc Maud, je crois que c'est important de pouvoir reprendre un peu les grandes étapes du cheminement biblique et se commencer dès la Genèse.
Voilà, la Genèse, on en a parlé tout à fait au début de notre première série d'émissions par rapport surtout à la création de l'homme et de la femme, relations entre l'homme et la femme, mais ça va être aussi les relations entre les fratries, l'histoire de Caïn et Abel, les questions des luttes, des rivalités, de pouvoir, de domination, tout ça est envisagé, donc en gros tout ce qui fait la pâte humaine. Et puis tout ça, ça va se terminer par l'histoire de Noé, qui est en fait celui qui nous permet de rentrer dans les lois minimales d'une vie en société, ce qu'on appelle les lois de Noé.
Et puis après Maud, c'est la grande étape de la grande saga d'Abraham et de la lignée des patriarches et des matriarches.
Voilà, donc Abraham, son fils Isaac, Jacob qui a été surnommé Israël, et puis Joseph. Tout en fait, toute cette lignée fait que d'un appel d'une seule personne qui est Abraham, on est passé à un peuple.
Voilà, et puis après c'est l'époque de l'Exode.
Avec Moïse qui sort son peuple de l'esclavage et qui l'emmène jusqu'aux abords de la terre promise. Puis après ce grand récit, on va voir les livres prophétiques, les psaumes, le cantique, les récits de Daniel, de Job et de tant d'autres. Toutes ces figures qui vont à chaque fois nous faire grandir dans cette découverte de l'Alliance.
Voilà, alors au travers de tout ce cheminement du peuple hébreu, nous est révélé beaucoup, je dirais, du sens spirituel de l'alliance que Dieu essaye de construire avec l'homme et avec son peuple. Mais on pourrait quasiment partir, Maud, de la Genèse à la chute, Genèse 3, quand l'homme a quitté l'alliance que le Seigneur avait fait avec lui et que Dieu le cherche dans le jardin et lui dit « Adam, Adam, où es-tu ?» Voilà, ça commence là, « Adam, où es-tu ?» Donc c'est Dieu qui veut rentrer en relation d'intimité, d'amour avec l'homme. Et donc, ça s'inscrit complètement dans l'histoire. Et donc, cela illustre la patience infinie de Dieu avec l'homme, avec le peuple élu, et sa miséricorde inlassable. Dieu parle, l'homme résiste à la volonté de Dieu, mais même dans la détresse, Dieu va venir constamment rechercher l'homme. Voilà, il ne compte pas ses péchés, mais il désire le sauver, il désire le faire grandir, le faire sortir de sa situation d'esclavage. Voilà, et lui redonner le trésor qu'il a lui-même brisé ou même rejeté.
Voilà, donc toute l'ancienne alliance est en fait un réapprentissage de cette relation entre Dieu et l'homme qui va bien sûr aboutir à l'arrivée du Messie qui est tant attendu par le peuple d'Israël. Donc tout est tellement imprévu dans cette révélation du Dieu qui est un tout autre que la Bible, il a fallu l'épaisseur de la Bible pour que le peuple à la nuque raide, comme disent les expressions bibliques, puisse entendre quel était ce Dieu qui l'aimait et qui voulait l'attirer vers un amour de plus en plus grand. Mais ce qui nous intéresse avec surtout, c'est de reprendre ce thème de l'alliance qui est très forte et qui est en fait un thème évidemment nuptial. Comme tu disais que le baptême est un sacrement nuptial dans une des précédentes émissions, l'alliance nous prépare, je dirais, à cette union nuptiale avec Dieu. Donc, pour le couple, qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu, en fait, s'est appuyé pendant tout l'Ancien Testament sur l'image du couple pour nous apprendre qu'est-ce que c'est que l'amour. Et qu'est-ce que c'est que l'amour selon son projet ?
Mais c'est là où il faut peut-être d'abord regarder qu'est-ce que l'alliance conjugale dans la mythologie antique.
Voilà, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand même, quand est arrivée cette révélation, à l'époque, on vivait dans le paganisme, et le paganisme, on était dans une mythologie antique qui poussait à des relations sexuelles, disons, ou affectives, extrêmement éclatées. Donc on avait d'une part le mariage, qui était une institution civile, on avait aussi la sexualité sacralisée, avec des prostituées sacrées, des rites, des mythes, des tas de sacrifices en tout genre. Et puis, il y avait aussi la mère de ses enfants, il y avait aussi l'épouse officielle, il y avait l'amante, enfin tout ça, c'était complètement éclaté. Donc en fait, on avait...
Et c'est ça qui est vraiment très important de souligner, c'est que dans l'expérience des peuples, avant la révélation biblique, au niveau des religions païennes, toutes ces différentes fonctions sexuelles, relationnelles, conjugales, etc., matriarcales, étaient séparées.
Voilà,
étaient séparées. Alors, l'une de l'autre pouvait être associée, mais tout ça, c'était scindé.
Voilà, donc on avait en fait plusieurs types de relations avec des conjoints selon les différents rôles que ça jouait et c'était éclaté. Et voilà que Dieu en fait cherche à nous faire comprendre qu'il faut unifier toutes ces données et ne pas dissocier le mariage, l'amour, la fécondité et le spirituel. Et que tout ça, ça peut se vivre en une seule personne, une seule union. Ça, c'est absolument révolutionnaire. C'est-à-dire que quand la révélation biblique arrive dans cet environnement païen, il y a tout d'un coup une telle nouveauté qu'il faut des générations pour arriver à le faire comprendre. Que, effectivement, notre Dieu est un seul Père, il n'a pas autour de lui tout un panthéon de femmes, de mères, d'épouses, de sœurs, tout ce qui a été projeté dans la mythologie antique, où l'homme, en fait, projetait sur les dieux sa vie concrète. Dieu est le tout autre et il est un. Et c'est pour ça que c'est venu vraiment le leitmotiv, si je puis dire, du peuple hébreu. Écoute le Seigneur ton Dieu, il est un, il est unique, il n'y en a qu'un. Et en lui, il y a toutes les dimensions. Donc il va falloir faire un travail énorme de redécouverte d'une réalité tout autre qui sort complètement de nos cases.
Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'au fur et à mesure que la révélation biblique va faire redécouvrir ce tout un de Dieu, que tout le panthéon déiste des religions païennes, où le Dieu était complètement éclaté dans une myriade de petits dieux, ou de petits ou de grands dieux, tout cela est rassemblé dans un seul Dieu. De la même manière, au niveau de toutes les dimensions conjugales, familiales, de la paternité, de la maternité, toutes ces dimensions qui étaient complètement éclatées, eh bien, vont être justement unifiées. Et que justement, il va y avoir une certaine unification des fonctions de fécondité, de procréation, d'amour, de passion, de mariage, de fidélité, de fonctions sociales, etc. Et donc, il va unifier les différentes données, notamment au niveau de la sexualité.
Voilà, et l'expérience de l'amour entre Dieu et son peuple va devenir le modèle conjugal. L'archétype du mariage, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple, qui va attendre d'Israël fidélité, amour, un lien de cœur et pas simplement un lien de loi. Et tout ça, c'est vraiment la révélation tout à fait nouvelle que Dieu propose sur l'amour humain et l'amour conjugal.
On reprend dans une minute. L'évangile pour le couple, et nous sommes en train de cheminer tout au long de l'Ancien Testament pour saisir combien l'amour de Dieu pour son peuple est parallèle, si parallèle avec l'amour conjugal, l'alliance conjugale. Maud.
Voilà, donc Dieu effectivement dans cette nouvelle, disons, révélation de l'amour qu'il est en train de nous faire expérimenter, quand je dis nous, c'est l'humanité à partir d'Abraham, il y a une vraie rupture avec cette unité des différentes données de l'expérience sexuelle. Donc tout ce qui est fécondité, tout ce qui touche à la vie, tout ce qui fait partie du besoin de stabiliser un mariage dans un ordre établi, tout ce qui est gestion de l'érotisme, du plaisir, tout ça va être réuni dans une seule donnée qui est l'alliance conjugale.
Mais pourquoi, Maud, cette révélation biblique est finalement révolutionnaire ?
Alors, elle est révolutionnaire parce qu'elle vient complètement à l'encontre de cet éclatement des différentes données de la vie affective et sexuelle dans lequel se situait la révélation. Et ce qui est très étonnant, Alex, c'est qu'on peut faire une petite constatation, c'est que dès qu'on lâche un peu l'histoire d'un peuple avec Dieu et d'une aventure spirituelle, on retrouve cet éclatement. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, il y a un peu de cet éclatement où on sépare toutes les données de la vie affective et sexuelle. Alors qu'il a fallu 4000 ans pour nous faire comprendre que oui, l'unité de l'amour, c'était vraiment un seul conjoint, une seule personne pour toute la vie et qui soit à la fois le père de ses enfants, l'amant avec qui on partage tout notre désir de plaisir sexuel, et à la fois le frère spirituel, et à la fois l'homme, si je peux dire, officiel. Voilà, tout est réuni dans la même personne, et réciproquement pour les femmes, bien sûr.
C'est là aussi ce qui est merveilleux et très caractéristique, c'est que cette révélation divine, cette unification du travail conjugal, je dirais incarné sur Terre, va se retrouver également sur l'accueil de la révélation divine, c'est-à-dire dans toutes les religions païennes. Finalement, tous les délires sexuels, familiaux, tous les déboires célestes vont se retrouver dans le panthéon divin. On va le retrouver dans les différentes religions païennes. Alors que là, nous avons Adonai est un dieu unique qui exige un culte exclusif. Il est à la fois père et mère, il n'a pas de partenaire, il n'y a plus de sexualité divine, il n'y a plus une déesse mère ou d'amante ou d'épouse, il n'y a plus de toute une série de sociologies divines comme on l'avait dans le panthéon grec ou dans le panthéon romain.
Voilà, ou dans tous les mythes antiques d'ailleurs. Si on avait un peu plus de culture, on se rendrait compte que c'était un peu toujours la même chose.
Voilà, et il n'y a plus aussi de rites religieux où il y avait des prostituées sacrées, des vierges consacrées aux dieux, etc. De ce type-là, ou de prostituées qui en s'unissant avec les différents fidèles, conduisaient plus ou moins vers l'expérience de Dieu. Enfin bon, il y a beaucoup de religions païennes qui ont intégré ces sexualités entre guillemets sacralisées.
Voilà, et donc là on rentre dans une relation tout à fait nouvelle où Dieu va en fait apprivoiser son peuple. Et comme tu disais, depuis la chute, Dieu court après son peuple, si je puis dire, l'appelle, le cherche, et donc ça va commencer avec Noé, qui est l'histoire du début de l'Alliance, avec ce beau signe de l'arc-en-ciel, qui a été donc le signe, disons, de l'Alliance de Dieu avec son peuple. Et puis Abraham, le premier, qui, par la foi, a écouté la voix de Dieu et a commencé à se mettre en route, et a quitté, en fait, dans sa famille, a quitté ce milieu païen pour rentrer dans l'aventure spirituelle avec Dieu.
Et puis c'est là où Abraham va vivre une expérience qui est très très radicale, et d'une expérience d'une alliance de Dieu avec un homme, puis avec une famille, on va arriver, Maud, avec l'alliance avec un peuple. Donc chaque fois, au niveau des étapes, cette alliance s'élargit aux dimensions d'un peuple.
Voilà, il va passer d'une personne à une famille, à une tribu et à un peuple. Et puis aujourd'hui, le peuple d'Abraham est un peuple gigantesque dont nous ne pouvons pas compter le nombre, comme la prophétie lui avait dit, c'est-à-dire tu ne pourras pas compter tes descendants, ils seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Voilà qu'il y a tant et tant de descendants à Abraham. Quel mystère quand même que cette élection qui est partie d'un homme et qui maintenant atteint les confins de la terre.
Alors, tu peux nous parler un peu plus justement de ces couples qui ont marqué l'histoire de la révélation, l'histoire de la Genèse, des patriarches, ces couples qui sont vraiment des maîtres et des modèles pour nous, mais par contre que nous connaissons si peu, et finalement on en parle très peu dans l'Église.
Voilà, mais pourtant ce sont des très belles figures. Donc Abraham a épousé Sarah, qui s'appelait Sarai au moment de leurs épousailles. Il s'appelait Abraham, d'ailleurs il a été rebaptisé par Dieu lors d'un moment fort de leur vie de couple, où Dieu est passé dans leur vie pour ouvrir leur cœur et leur permettre de recevoir la grâce de la fécondité. Ils ont été rebaptisés l'un et l'autre. Et puis Isaac et Rebecca, et enfin Jacob qui a épousé Rachel, puis ou plutôt Léa, puis Rachel. Chacun de ces couples, bon, si on avait le temps, on pourrait raconter en plusieurs émissions la vie de ces couples, mais ce qui est intéressant, si on va relire l'histoire de ces couples, c'est qu'à chaque fois, il y a eu vraiment une rencontre très belle entre les deux êtres. Souvent, d'ailleurs, les femmes étaient très belles, et quand la Bible le dit, c'est que vraiment, elles devaient l'être. Elles étaient exceptionnelles, c'était des femmes et des hommes qui étaient vraiment des personnalités importantes, et qui ont chacun donné, si je puis dire, l'image d'une facette de Dieu. Ce Dieu qui était en train de se révéler. Et puis après tous les couples, Alex, il y a eu beaucoup de prophètes qui ont aussi apporté beaucoup de choses sur cette révélation divine.
Alors tu veux nous essayer de nous les reprendre les uns derrière les autres, ces grands prophètes de l'Ancien Testament.
Voilà, bon, il y a eu Moïse qui a sorti le peuple de l'esclavage, et nous reprendrons dans une émission d'ailleurs toutes ces parallèles entre la sortie d'Égypte et puis nos vies spirituelles à chacun d'entre nous. Et puis Isaïe, qui a prophétisé tellement sur la venue du Messie. Osée, qui était toujours le prophète, si je puis dire, de l'amour. Alors lui, nous en reparlerons un peu plus tard dans cette émission, parce que justement, il était vraiment symptomatique, si je puis dire, de ce que Dieu essayait de faire comprendre à son peuple par rapport à l'amour. Puis Ézéchiel, qui a prêché sur annoncé la résurrection. Enfin, il y a beaucoup de grands thèmes qui sont repris. Heureusement, aujourd'hui, dans nos liturgies, nous avons des textes de l'Ancien Testament qui viennent éclairer ce que le Christ est venu accomplir.
Alors c'est là où il faut saisir, au-delà des personnalités, des particularités de tel ou tel prophète, il faut pouvoir toujours se bien saisir quelle est la mission transversale, la mission au travers de tous ces différents prophètes, quelle est leur mission. Voilà. Leur mission, c'est vraiment de nous redire inlassablement l'amour de Dieu malgré l'infidélité de l'homme, malgré ses faiblesses, malgré ses travers, malgré ses renoncements à la révélation de Dieu. Ces prophètes veulent toujours dire à la fois l'appel, l'exigence, mais aussi l'immense amour de Dieu. Donc c'est un amour de Dieu inconditionnel.
Oui, et puis ils n'y allaient pas par quatre chemins, parce que quand ils voulaient signifier que c'était vraiment un chemin de bonheur, ils parlaient de bénédictions, d'enfants qui croissent, de troupeaux qui grandissent, de moissons qui réussissent. Enfin, voilà, c'était vraiment le signe de la bénédiction. Et puis quand ils parlaient de malédiction, alors là, c'était terrible. Ils annonçaient ce qu'ils appellent la vengeance de Dieu, c'est-à-dire en fait ces fruits de mort qui viennent dans nos vies lorsque on ne rentre pas dans cette relation avec Dieu. Donc ils étaient assez tranchés, c'est pour ça que dans la Bible, il y a tout ce vocabulaire assez guerrier, assez violent, si je puis dire. Et les prophètes, ils étaient toujours là pour rappeler avec vigueur, ne vous détournez pas de la voie du chemin de vie, sinon ça va porter des fruits de mort dans votre vie. Donc retournez vers le Seigneur, et inlassablement, ils rappelaient au peuple quel était le sens de cette histoire et de là où ils allaient découvrir le Dieu amour, le Dieu tout autre, et entrer en relation avec lui.
Alors c'est là où peu à peu, au travers de ce cheminement, nous saisissons le cœur de la révélation de l'amour de Dieu pour son peuple. C'est-à-dire que le modèle d'amour et d'alliance que propose Dieu à son peuple et aux hommes, c'est le modèle conjugal qui essaye lui aussi d'unifier tous les aspects de la sexualité, de la relation conjugale. Et ben, dans le projet divin, il en va de même, où tout est rassemblé et intimement associé. Voilà. Même si, bien sûr, il y a un décalage permanent entre la révélation et les pratiques et les mœurs, etc. Voilà, c'est le modèle conjugal dans le sens « je t'ai aimé, je t'ai choisi et malgré ton péché, je te pardonne et je serai fidèle constamment à notre amour et à la révélation. »
Et d'ailleurs, il y a des très beaux passages de déclarations d'amour de Dieu à son peuple qui passent par la voix des prophètes. « Je te séduirai, je t'emmènerai au désert. » C'est vraiment le désir de Dieu de retrouver cette alliance avec son peuple et qu'il manifeste par les traits d'une relation conjugale. Donc c'est vraiment extraordinaire de voir à quel point la relation conjugale va évoluer avec cette parole de Dieu, et à la fois l'homme va commencer à rentrer dans l'intelligence de la relation qui l'unit à Dieu, l'intelligence du cœur, c'est-à-dire que Dieu demande une loi d'amour, il demande une réponse d'amour à l'homme, il ne lui demande pas d'exécuter des choses qu'il convienne ou qu'il ne convienne pas de faire, il demande de l'aimer, et parce qu'il l'aime, alors il va y avoir une loi. Et c'est vraiment toute la différence, et c'est magnifique cette révélation sur la beauté de l'amour.
Voilà, en tout cas, c'est cette bénédiction de tout le cheminement du peuple d'Israël vers la révélation, vers l'accueil de la révélation, qui est un parallèle avec l'expérience amoureuse. Voilà, nous souhaitons et nous prions véritablement pour que nous puissions tous les uns les autres être éclairés par ce cheminement du peuple hébreu durant l'ancienne alliance, pour nourrir et éclairer nos propres cheminements conjugaux. Voilà, que le Seigneur vous bénisse en toutes choses, vous et vos familles, vos conjoints, et à la semaine prochaine. The intimate friendship, the Holy Spirit.